7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous revenons sur les scandales sexuels chez Oxfam. Après les révélations du quotidien britannique Le Times sur des abus sexuels commis par du personnel humanitaire de l'ONG en Haïti, une série d'enquêtes est lancée qui touche d'autres pays, mais aussi d'autres organisations humanitaires comme Save the Children. Alors, quelles conséquences sur l'image des ONG et surtout sur les dons en faveur de l'aide au développement? 7000 donateurs réguliers ont déjà cessé leur versement à l'ONG Oxfam. Comment gérer cette crise et les soupçons qui l'entachent, qui vont forcément toucher l'ensemble des organisations humanitaires? Les ONG emploient du personnel international, alors sont-elles plus exposées aux dérives alors que leur mission est précisément d'aider les populations en temps de crise? Ferment-elles les yeux depuis trop longtemps? Quelle prévention, quelles sanctions? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Ronnie Broman.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien président de Médecins sans frontières, MSF, probablement l'une des ONG les plus populaires dans le monde. Vous publiez aussi, là, il y a quelques jours, Guerre humanitaire, mensonges et intox aux éditions textuelles. On est aussi en ligne avec le directeur France de l'ONG Plan International. Bonjour Yvan Savy.
Bonjour.
Votre organisation œuvre principalement dans la protection des enfants et notamment des filles. Vous nous direz aussi comment vous recevez chez vous cette actualité et ce scandale. Delphine Bauer, vous êtes journaliste, membre du collectif journaliste YouPress. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes co-auteur d'une enquête sur les scandales sexuels en temps de guerre et qui touche notamment les Nations Unies. Impunité zéro, éditions Autrement. Et quant à vous, les voisins, si vous travaillez dans l'humanitaire et le développement, évidemment, évidemment, vos réactions nous intéressent tout particulièrement. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Également, vos réactions sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous lis deux messages, celui d'un Haïtien, Gérald, qui est à Jérémy. Il nous dit « C'est honteux, ils organisent des levées de fonds à l'étranger, en parlant d'Oxfam, afin de mieux profiter de notre vulnérabilité, de notre précarité économique. Oxfam est le premier à être découvert, mais comme ONG, ce n'est pas la seule à nous humilier dans ce sens. » Souni est un N'Djamena au Tchad. L'histoire d'Oxfam, c'est le côté visible de l'iceberg. Tous disent à peu près la même chose d'ailleurs, hein. On en est qu'au début. Certains membres des ONG invitent les filles à domicile moyennant de l'argent. ONG humanitaire, force internationale, organisation internationale, diplomatique, monétaire. Voilà la liste que dresse Souni. Bref, chez nous, nous dit Souni, on dit les voitures à plaques d'immatriculation vert et rouge. Voilà, un peu l'amalgame peut-être que font les auditeurs ou pas d'ailleurs. Mais appelez-nous, on a envie d'en discuter en direct avec vous. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
On prend une première auditrice qui nous appelle donc au standard, 33 1 84 22 71 71. Bonjour Leïsa.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour les invités.
Bienvenue à vous, vous nous appelez de Lomé au Togo, vous travaillez dans l'humanitaire?
Oui, je dirige une ONG ici au Togo. Et nous avons à peu près 15 employés, nous sommes dans l'humanitaire et nous travaillons avec 39 bénéficiaires.
Oui, vous travaillez dans quel domaine dans l'humanitaire?
Pour le Togo, spécialement la prévention du VIH au milieu scolaire et l'autonomisation de la femme.
Alors, comment vous vivez cette actualité depuis la révélation du scandale il y a quelques jours, en ce mois de février, Leïsa?
On suit les médias, on s'informe, et sur le terrain, en tout cas pour moi, je n'ai pas encore senti l'impact. Je sais qu'il y aura un impact. C'est comme une vague, elle va venir. Parce que ça va influencer les financements. Et sans financement, comment est-ce qu'on va travailler avec les bénéficiaires? Je peux comprendre la position des donateurs privés qui retirent leur financement parce qu'ils n'ont plus confiance en la structure. Mais en fait, la victime, à la fin, c'est toujours le bénéficiaire. Parce que sans fonds, on ne peut pas faire de projet.
Est-ce que vous vous demandez déjà, en tant que directrice d'une petite structure, hein, vous avez mentionné une quinzaine d'employés, vous vous demandez déjà s'il y a du ménage ou à mieux comprendre ce qui se passe chez vous ou pas du tout?
Oui. Ça fait toujours souci. Parce que ce qui arrive avec d'autres, même si c'est des grandes structures, ça peut arriver avec nous, même si on est petit. Et on essaie de mettre en place des mesures, bien sûr. Mais comment trouver vraiment la mesure qui va être efficace? Je peux vous citer, par exemple, le recrutement. Quand on fait un recrutement, on va vérifier les antécédents de la personne, on va vérifier des recommandations, on a tout un système qui est mis en place, mais on n'est pas sûr à 100% que toutes les informations nous parviennent.
Dans le cas d'Oxfam, en effet, l'une des personnes accusées, hein, Roland Van Ouwermeyren, directeur en Haïti, a eu son départ à l'amiable et il a rejoint ensuite une autre ONG, Action contre la faim au Bangladesh. Hein. D'ailleurs, ça donne lieu à d'autres enquêtes. Donc, on a l'impression que finalement, les lettres de recommandation, les renseignements sur les personnes quand elles quittent leur poste n'ont pas forcément beaucoup d'efficacité.
Bah, c'est très clair. Des fois, c'est très clair. C'est toujours un risque. On peut pas être... C'est pas fiable à 100%. Et je comprends aussi qu'il y a des éléments, des fois, qu'on ne peut pas divulguer parce qu'on est en pleine enquête. Est-ce qu'on a vraiment conclu l'enquête? Est-ce qu'on a des éléments concrets à communiquer aux autres? C'est vraiment délicat.
Vous êtes inquiète pour votre ONG ou pas, Leïsa, et pour votre métier?
Alors, oui et non. Oui, principalement parce que des 39 000 bénéficiaires qu'on a, on a au moins 60% d'enfants. Mmh. Et quand on travaille avec des enfants, c'est toujours un risque. Et on a des politiques. On a mis en place donc des politiques. Les employés sont informés, les bénéficiaires sont informés. On a toute une procédure pour...
Quand vous dites les bénéficiaires sont informés, c'est-à-dire sont informés qu'ils doivent parler s'il se passe quelque chose d'anormal.
Oui, exactement. Et ça, nous, on les informe sur ce qu'un animateur sur le terrain peut et ne peut pas faire.
Oui. Eh bien, merci beaucoup, Leïsa, de nous avoir appelé pour ce témoignage en direct. Ronnie Broman, comment vous réagissez à ce scandale sexuel qui touche d'abord Oxfam?
D'abord, en essayant de faire la part des choses. Qu'est-ce qui, dans cette affaire, est scandaleux et qu'est-ce qui relève de conduites humaines qui ne sont pas nécessairement, exemplaires, mais qui relèvent aussi du domaine intime et, par exemple, le recours à du sexe commercial, le recours à des amours tarifés. Est-ce que c'est en soi condamnable? Est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est immoral? Bien ça dépend des gens, des pays, des situations, et on ne peut pas porter un jugement qui emporte toutes les situations.
Ce n'est pas ce que disent les anglo-saxons, qui ont quand même tendance à dire, à partir du moment où il y a un rapport de domination, ou par son poste à la tête d'une organisation très puissante sur le plan humanitaire, le fait d'avoir recours à des prostituées, l'enquête interne ensuite dira si réellement il y a eu des pressions, etc. Mais déjà, c'est déjà qualifié plus ou moins d'agression sexuelle.
Et surtout de l'argent qui provient de l'organisation elle-même. C'est pose aussi un problème différent, celui du financement de ces...
C'est un secret pour personne que la plupart des employés des organisations humanitaires, qu'ils soient directeurs de programme, ou bien chauffeurs, ou bien médecins, ou logisticiens, reçoivent un salaire. Plus ou moins important d'ailleurs selon les ONG. Par exemple, les ONG britanniques ont l'habitude de payer assez confortablement, voire même à un niveau assez élevé, leurs expatriés. D'autres ONG, par exemple les françaises, les payent beaucoup moins.
On dit souvent qu'un chauffeur de l'UNICEF, qui n'est pas une ONG, mais dépend des Nations Unies, mais gagne plus qu'un professeur dans les pays pauvres.
Donc
ça aussi, ça rentre en ligne de compte.
Mais ce que je voulais dire au sujet du salaire, c'est qu'une fois que ce salaire ou cette indemnité a été versée, son emploi relève des choix de la personne, quel que soit le domaine. Si vous voulez, quand un fonctionnaire d'État dépense son argent, je ne sais pas moi, au casino ou dans des bordels, ça n'est pas l'État qui est en cause, c'est le comportement de cette personne et il fait ce qu'elle veut.
Donc, est-ce qu'il y a des politiques internes ? Moi j'ai travaillé sur l'ONU et effectivement il y a une politique interne qui recommande l'absence absolue de contact avec la population et les bénéficiaires, mais est-ce que c'est aussi le cas de façon systématique dans les ONG ? Et dans ce cas-là...
Comme MSF.
Ouais, ou dans les agences... Du point,
MSF a une politique de vérification, de contrôle et de prévention des abus qui a été mise en place il y a une quinzaine d'années. MSF a 45 ans. Pendant 30 ans, nous avons fonctionné sans cela. Et donc, il a fallu tout de même un certain temps pour prendre conscience de ces questions. J'avoue que moi, par exemple, quand j'étais président d'MSF, entre 82 et 94, je n'avais aucune idée de l'existence de ces abus. Je savais bien entendu que des gens allaient dans des endroits où ils fréquentaient des filles et où ils payaient pour cela, mais c'était noyé dans une espèce d'ensemble que je ne voyais pas de raison de réprouver. Ça faisait partie de la vie privée des gens. On s'est rendu compte qu'il y avait des abus sexuels seulement à la fin des années 90, au tournant des années 2000, parce qu'il y avait aussi une prise de conscience collective. Et les ONG n'étant pas des sectes, elles réagissent aussi en fonction de ce qui se dit dans le milieu, des idées qui circulent, du partage entre le bien et le mal qui évolue dans le temps. Et donc, comme on dit dans notre jargon, une cellule chargée de la gestion des abus a été mise en place il y a maintenant une quinzaine d'années. Elle recueille les plaintes des gens qui n'ont pas pu trouver satisfaction à leur frustration ou aux abus dont ils sont victimes sur le terrain, parce que tout de même, il est préférable que les choses se règlent sur place. Quand quelqu'un
35
s'estime...
35 000 salariés hein, dans le monde, donc évidemment, la cellule doit avoir du travail quand même. Parce que
Non. 35 000 salariés au niveau de toutes les sections de MSF. Oui, donc il y a plusieurs cellules pour s'occuper de ça. Mais heureusement, les missions humanitaires de MSF ne sont pas des endroits où on s'entretue, où on passe son temps.
Bien évidemment, mais vous dites donc qu'il y a déjà des cellules qui existent sur ce sujet. Je voudrais poser la question à Yvan Savy pour plan international. Déjà votre réaction, et puis est-ce qu'on s'interroge à plan ou on n'a pas attendu le scandale sexuel d'Oxfam pour s'interroger de savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur de plan?
Bien sûr, mais écoutez, nous, notre réaction, elle est évidemment celle de tout un chacun. On est attristé et révolté par ces révélations sur des comportements abusifs dans notre secteur. Nous, on n'a pas attendu pour nous interroger, parce que comme le disait votre témoin du Togo, travaillant sur les enfants et les jeunes les plus vulnérables, nous avons intégré très tôt les problématiques de potentiels abus de la part des gens qui travaillent au contact de ces enfants et de ces jeunes. Et nous avons une politique de protection des enfants et des jeunes qui est de tolérance zéro à l'égard de toute forme d'abus, qui va au-delà des législations nationales, souvent très pauvres. Hein, dans les pays où nous intervenons, il n'y a quasiment pas de législation. L'un de nos rôles est d'ailleurs de faire établir des législations pour protéger les enfants et les personnes vulnérables, les filles et les femmes, désormais aussi. Et donc, nous avons des codes de conduite qui vont au-delà des contextes nationaux et qui nous conduisent à exiger de l'ensemble de nos salariés qui signent ces chartes de comportement lorsqu'ils rendent notre organisation à respecter un cadre qui va au-delà des lois. Et en ce qui concerne les relations sexuelles avec les bénéficiaires, c'est interdit par nos codes de conduite et les gens, quand ils nous rejoignent, savent qu'ils doivent se comporter de cette manière-là.
Est-ce que dans l'ensemble, aujourd'hui, on voit bien que dans l'affaire Oxfam, on reproche aux ONG un manque de transparence sur ces sujets, c'est-à-dire de laver le linge sale en famille, grosso modo?
Mais vous savez, tout reproche général est par définition injuste. Il se trouve que ce qu'a fait Oxfam à Haïti, comme je le disais tout à l'heure, relève tantôt de questions individuelles qui doivent être tranchées selon une morale individuelle, tantôt de problèmes collectifs, c'est-à-dire à la fois légaux, est-ce qu'ils ont enfreint la loi ou,
on parle de harcèlement, d'intimidation, voilà, de menaces physiques. Hein, là, on n'est plus dans un comportement individuel, libre appréciation de chacun.
Donc, intimidation de témoins, chantage, là, il s'agit vraiment de pression absolument inadmissible, qui relève aussi de la loi, mais il faut bien reconnaître que, comme c'était rappelé à juste titre par l'intervenant précédent, nombre des pays dans lesquels nous travaillons n'ont pas d'institutions judiciaires ou de police fiable, donc les recours locaux sont très difficiles. Du coup, les ONG sont amenées à faire la loi à être juges et policiers en leur sein. Ça n'est pas sain, ça n'est pas, c'est difficile, c'est aussi
Alors là, on a une commission indépendante pour l'affaire Oxfam qui va donc qui est en train d'enquêter. C'est pas la première fois que l'humanitaire fait l'objet d'accusations à l'encontre de ses missions, de ses enquêtes, qu'on dénonce un certain, on a dénoncé pendant longtemps, et vous en savez quelque chose, Ronnie Broman, un certain business de l'humanitaire, une forme de cynisme, de colonialisme humanitaire aussi, de la toute-puissance des ONG à très gros budget. Et ça aussi, vous en savez quelque chose. Vos organisations respectives, si on prend le cas de MSF, c'est plus de 300 millions d'euros de budget. Plan, c'est 850 millions d'euros. Donc, ce sont vraiment des géants. Est-ce que là, vous avez l'impression qu'on est au début ? La presse britannique parle d'une crise plus grave que l'affaire Weinstein aux États-Unis, qui touchait le monde du cinéma. Est-ce que là, on parle d'une des crises les plus graves qui pourraient toucher l'humanitaire ou pas ?
Je ne sais pas, c'est l'avenir qui le dira. Sur le moment, on ne peut pas juger de la gravité du crise.
Pour vous, Yvan Savy ?
Attendez, non, excusez-moi, je voulais juste ajouter quelque chose, pardon, je vous coupe la parole, mais c'est pour dire qu'il faut aussi considérer les conditions politiques dans lesquelles tout cela se passe en Angleterre. Il y a une offensive complètement hystérique, de mauvaise foi, malhonnête, qui vise à enfoncer Oxfam. Moi, j'ai beaucoup de divergences avec Oxfam et je ne cherche pas ici à défendre une ONG au nom de la corporation des ONG. Mais tout de même, ça n'est pas juste, au nom de quelques cas, d'enfoncer une ONG qui compte plusieurs dizaines de milliers
derrière
de travailleurs.
Derrière un complot politique contre l'aide au développement en général.
Contre l'aide au développement.
La Grande-Bretagne est un des rares pays qui respecte avec l'Allemagne le 0,7%
voilà.
de son
PIB. Et ça cause beaucoup de troubles
PIB
et les conservateurs.
Conservateurs
cherchent à faire diminuer cette proportion. Et Oxfam est en quelque sorte une proie
oui.
idéale
vous voyez
qui symboliserait
bien qu'il
ne faut
plus financer l'aide au développement. C'est ça que disent
voilà.
les détracteurs conservateurs.
Et ce sont conservateurs. Essentiellement les conservateurs, la presse et les députés ouais. conservateurs qui font ça. Donc il faut situer cela dans le contexte
Yvan
britannique.
Vous diriez qu'il s'agit d'une des crises les plus graves qui touchent l'humanitaire à l'heure actuelle ?
Non, moi je dirais que nous avons quelque chose qui est un mouvement mondial, qui a été démarré effectivement avec l'affaire Weinstein et qui s'est propagé sur le secteur de l'industrie cinématographique. Ce sujet est un sujet universel qui existe depuis toujours. Nous qui travaillons sur l'égalité entre les filles et les garçons, on sait qu'atteindre cette égalité, c'est remettre en cause des rapports de pouvoir, des normes sociales et des rapports de pouvoir. Je rejoins ce que dit Ronnie Broman sur l'utilisation politique de ce scandale à des fins politiques. Et il faut, et nous sommes heureux de pouvoir ouvrir le débat aussi au sein de notre secteur pour faire progresser nos pratiques et que l'ensemble des personnels qui travaillent au sein des organisations humanitaires respectent des pratiques qui respectent la dignité des personnes. L'exploitation politique, il faut être attentif à la manière dont c'est utilisé.
Est-ce que vous avez peur qu'il y ait des répercussions sur les dons pour votre organisation Plan International, Yvan Savy ?
Nous, à notre niveau, non. Nous souhaitons participer et contribuer à la progression des pratiques des uns et des autres. Nous n'avons pas d'inquiétude particulière vis-à-vis de nos donateurs qui accompagnent depuis toujours notre organisation dans une logique justement
Donc
de protection.
Donc vous pensez que les donateurs vont faire la différence entre les ONG si aucun scandale ne touche votre ONG ?
Tout à fait. Il faut faire appel à l'intelligence des personnes et à l'intelligence de l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces sujets. Ce sont des sujets sensibles, ce sont des sujets complexes et ce sont des sujets universels.
Oui, je pense qu'il faudra effectivement laisser le temps au temps de faire certaines choses et de sortir de cette effervescence médiatique qui a ses avantages, c'est-à-dire de faire émerger des vrais problèmes internes de ces ONG, mais voir ensuite quelles vont être les solutions qui vont être envisagées, quelles réflexions ça va réellement susciter. Donc rendez-vous, à mon avis, plutôt dans quelques mois pour voir dans quelle mesure on sortira de cette bulle médiatique pour arriver à des meilleures pratiques sur le terrain.
Delphine Bauer, évidemment, on va vous demander juste après le flash si on peut faire un parallèle avec les missions de maintien de la paix des Nations Unies, qui ne sont pas des ONG, mais qui ont été éclaboussées par de multiples scandales, notamment en République démocratique du Congo. Vous restez avec nous, Ronnie Broman, Yvan Savy, Delphine Bauer. Et bien évidemment, les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle donc de ces scandales sexuels qui éclaboussent pas seulement l'ONG Oxfam d'ailleurs, puisque l'organisation Save the Children avec Brendan Cox, le mari de la députée Jo Cox qui avait été assassinée, et lui aussi accusé d'avoir eu un comportement sexuel inapproprié envers des collègues femmes, donc dans cette organisation Save the Children qui est bien connue, notamment sur le continent africain. africains. Voilà, vous nous appelez 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. On parle des scandales sexuels qui éclaboussent l'ONG Oxfam. Quelles conséquences sur l'image de l'ensemble des ONG, surtout sur les dons en faveur de l'aide au développement? Les voisins, bien sûr, vos réactions nous intéressent. Comment le secteur de l'humanitaire peut ou doit faire face à cette crise qui risque d'affecter injustement des actions humanitaires indispensables en situation de crise? Veux nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Je précise que l'archevêque sud-africain, prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, a annoncé renoncer à son rôle d'ambassadeur auprès d'Oxfam. C'est la même chose pour le chanteur sénégalais Baba Mal. Et le gouvernement britannique a gelé son aide financière à l'ONG et demande aux ONG en général de fournir désormais un rapport sur les pratiques de prévention. Alors, est-ce qu'on se réveille un peu tard ou pas? Quelles sont les pratiques dans les différentes organisations internationales? On en parle avec nos invités. Ronnie Broman, vous êtes l'ancien président de Médecins Sans Frontières. On est également au téléphone avec Yvan Savy de l'organisation Plan International pour la branche France et Delphine Bauer, journaliste, membre du collectif YouPress. Vous êtes co-auteur d'une enquête sur les scandales sexuels en temps de guerre et qui touche notamment les Nations Unies. Vous avez publié Impunité Zéro. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Megan Nobert. C'est cette avocate spécialiste spécialisée dans les droits de l'homme et les crimes internationaux. Elle a travaillé pour le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban, mais aussi dans l'humanitaire, à Gaza, en Jordanie, au Sud-Soudan, pour un programme de l'ONU. Et il y a 2 ans et demi, elle a brisé le silence sur ce qui est, selon elle, une pratique courante, je la cite, dans le milieu humanitaire. Charlie Dupio l'a jointe par téléphone.
Quand je travaillais en tant qu'humanitaire à Bentiu, au Soudan du Sud, en février 2015, un de mes collègues, un samedi soir, a mis de la drogue dans mon verre et il m'a violée. C'était horrible, cela m'a causé beaucoup de mal et il m'a fallu 3 ans pour cicatriser. Près de 6 mois après ce viol, j'en ai parlé publiquement dans les médias, sur le site BuzzFeed et sur le journal britannique The Guardian. Je pense que cela a créé un tournant dans le discours au sein du monde humanitaire. Après que je me sois exprimée publiquement, des centaines de personnes, qui toutes travaillaient dans l'humanitaire, des centaines, m'ont contactée pour me dire qu'elles avaient vécu des expériences similaires. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer l'ONG Report the Abuse, signaler les abus.
Mais combien de témoignages vous avez recueillis à ce moment-là?
Avec l'ONG, j'ai monté une plateforme qui pouvait ressembler à un sondage. Il s'agissait en fait d'un espace où les membres de cette vaste communauté humanitaire, pas seulement des victimes mais aussi des témoins, ou simplement des gens qui avaient besoin de s'exprimer sur le sujet, tous pouvaient raconter leur expérience sur le sujet de la violence sexuelle. Plus de 1000 personnes ont participé à ce sondage improvisé, et 72% de celles qui ont répondu ont dit avoir déjà été victimes de violences sexuelles.
Et qu'est-il arrivé à votre agresseur ?
Ce qu'on m'en a dit, quelques mois après que j'ai raconté publiquement cette histoire, c'est qu'il avait été expulsé du pays, avec son salaire, et que son contrat avait ensuite pris fin. Aujourd'hui, je n'ai sincèrement aucune idée de l'endroit où il se trouve, ni de ce qu'il fait. Il n'y a eu aucune justice, ou même aucune responsabilité s'agissant de mon viol.
Et vous n'avez pas porté plainte ?
Si, mais malheureusement, l'organisation pour laquelle je travaillais à l'époque n'avait pas la capacité d'enquêter ou de réagir. Quant à lui, il travaillait pour un contractant de l'UNICEF. Et l'UNICEF a choisi de ne pas répondre ou d'enquêter sur cet incident. Et le contractant pour lequel il travaillait n'était pas en capacité de le faire. Et puisque cela s'est passé au Soudan du Sud, aller à la police n'était pas une option. Le fait que je n'ai pas obtenu justice a certainement ralenti ma guérison, mais cela m'a poussée à m'assurer que d'autres n'aient pas à endurer ce que j'ai vécu. Je pense qu'il serait juste de dire que la violence sexuelle au travail est un problème qui concerne la planète entière, comme l'a prouvé l'affaire MeToo, et que le monde humanitaire est aussi touché. Pour moi, il faut un changement culturel dans le monde humanitaire. Nous avons une culture très masculine, une culture très cow-boy encore, surtout lorsqu'il s'agit de l'action humanitaire d'urgence.
Et quel regard vous portez aujourd'hui sur les différents scandales qui éclaboussent l'organisation Oxfam ?
Le groupe de victimes d'Oxfam est différent des victimes dont j'ai pu recueillir les témoignages sur le site internet de Report the Abuse. J'ai recueilli la parole des femmes qui travaillaient dans l'humanitaire, d'employés, victimes de violences sexuelles. Mais le scandale Oxfam touche nos bénéficiaires, les populations que nous, humanitaires, sommes censés aider. Il existe de nombreux parallèles quand on évoque ces deux problèmes. La façon dont ils ont été gérés, comment ces actes ont été signalés, comment les prévenir, comment avoir des dispositifs plus clairs de plainte et d'enquête, etc. Mais je pense qu'il y a un degré supplémentaire de gravité quand cette violence sexuelle touche des bénéficiaires. Car nous sommes là pour les servir. Et de toute façon, ces bénéficiaires sont plus vulnérables que les travailleurs humanitaires.
Quels espoirs vous avez sur ce sujet ?
Malheureusement, après 2 ans d'opérations fortes, avec un réel impact, mon ONG Report the Abuse a dû fermer, faute de financement. Mais je ne vais pas m'arrêter de parler. Tant qu'il y aura de l'espace pour cela, et tant qu'on aura besoin de ma voix, je continuerai à me faire entendre. Ce problème est bien trop important, même d'un point de vue personnel, pour que le silence me soit autorisé. J'ai assisté à des changements incroyables ces dernières années. Les victimes sont de plus en plus nombreuses à raconter et à signaler ce qu'elles ont dû vivre. Les organisations commencent à enquêter. Certains agresseurs sont licenciés. Je veux que cela se poursuive. Des Nations Unies et de toutes ces antennes jusqu'aux ONG, je souhaite que l'on continue de tout faire afin de créer dans ce monde humanitaire des espaces de travail plus sûrs pour le personnel certainement, mais aussi pour les populations que nous servons.
Ronny Broman, vous avez entendu l'expression culture cow-boy. Est-ce que les ONG offrent à l'heure actuelle, plus qu'une entreprise lambda, un environnement propice aux atteintes et aux agressions sexuelles ? De par le métier, de par l'activité, il y a du personnel international, il y a une mobilité permanente des personnels, il y a des experts ou des contractants indépendants.
Oui, sans doute. Disons qu'il y a des deux côtés de quoi... singulariser l'aide humanitaire. D'un côté, comme frein à ce genre de choses, il y a un état d'esprit quand même qui est égalitaire, qui se veut sensible un certain idéal, sensible au discours féministe. Enfin, il y a tout de même toutes sortes de freins, des gens qui sont engagés pour une cause à laquelle ils adhèrent et qui quand même les empêchent de se comporter comme les brutes qu'ils pourraient être dans d'autres endroits. Et puis de l'autre côté, ce qui est plutôt un accélérateur, et c'est pour ça que la synthèse est difficile à faire, ce qui pourrait être plutôt un accélérateur, c'est la vie dans un environnement relativement violent, avec une absence, comme ça a été dit très justement, de justice et de police locale qui peuvent servir de recours, de protection, et la vie dans une espèce de bulle relativement fermée, je dis relativement, il ne faut pas s'exagérer
et
cela.
Et des drames humains à supporter aussi au jour le jour.
C'est ça. Donc,
ce qui n'excuse pas les comportements,
la
bien
violence,
évidemment.
La violence tout autour. Ouais. Et on remarque, comme ça a été d'ailleurs pointé dans ce témoignage remarquable, que c'est bien souvent à l'intérieur du personnel des ONG que se produisent les abus, tout autant, voire peut-être beaucoup plus que vis-à-vis de ce qu'on appelle les bénéficiaires, terme que personnellement je n'utilise pas, mais disons les populations destinataires de l'aide. Donc c'est bien dans cette cellule relativement fermée que se produisent un grand nombre d'abus.
Mais pas seulement. Et je pense que c'est difficile de dissocier ce qui se passe en interne avec ce qui va se passer par rapport aux bénéficiaires, aux personnes qui vont être aidées sur le terrain. C'est impossible d'imaginer qu'une organisation, que ce soit les Nations Unies ou des ONG, qui ne sait pas gérer en interne, qui ne sache pas gérer en interne des problèmes de harcèlement ou d'abus sexuels, puisse ensuite gérer mieux des dysfonctionnements qui toucheraient les populations bénéficiaires. Par ailleurs, pour avoir discuté avec des humanitaires, je n'ai pas directement travaillé sur la question des humanitaires, mais effectivement j'ai été en contact avec un certain nombre d'entre eux, et à chaque fois le discours qui m'était tenu, c'était quand même que certains verrous moraux sautaient à partir du moment où une personne arrivait sur un terrain, éloignée de sa famille.
Avec un camp de réfugiés à portée de main.
Avec un camp de réfugiés à portée de main, très proche, etc. Donc, selon les personnes, évidemment, ça ne va pas être le cas de tous les employés des ONG, mais je pense que pour certaines personnes, clairement, il y a des verrous qui vont sauter relatives à une sexualité débridée, entre guillemets, sur place.
Delphine Bauer, vous avez travaillé sur la plus grosse affaire d'abus sexuels commis par des casques bleus, à savoir en République démocratique du Congo. C'est aussi la plus grosse mission de maintien de la paix. Hein. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme sanctions ? comme condamnations. Comment ont évolué les faits depuis plusieurs années que ces scandales ont lieu d'ailleurs? Il y a vraiment un savoir-faire et une connaissance des Nations Unies sur le sujet bien supérieure aux ONG qui sont maintenant touchées.
Je pense qu'effectivement il y a beaucoup de parallèles à faire entre la situation de l'ONU et la situation des ONG. J'ai travaillé avec ma collègue Hélène Molinari et qui elle a spécifiquement travaillé sur cette question de la RDC avec une volonté de retracer ce qui était devenu cette plainte réalisée par... Enfin, en tout cas, cet avertissement réalisé par une universitaire qui avait entendu parler de rumeurs concernant un hôtel où seraient emmenées des prostituées, dont probablement des prostituées mineures. Il se trouve qu'à partir du moment où elle a à Ouvira. Et il se trouve qu'à partir du moment où elle a fait ce signalement, le reste de la façon dont l'affaire a été traitée en interne est relativement floue. Impossibilité de la part des Nations Unies de retrouver exactement l'affaire dont on parlait, qui était pourtant assez circonstancié. Et aujourd'hui, a priori, des informations qu'on a, aucune mesure n'aurait été prise pour empêcher et prévenir ces abus.
Il n'y a pas donc de mécanisme qui s'enclenche dès le démarrage d'une plainte, par exemple.
Il y a des mécanismes.
Même sans plainte, d'ailleurs. À partir du moment où certains ont connaissance de faits qui anormaux.
Alors, il y a déjà, je pense, un problème de connaissance du processus de dévoilement d'une information. Il y a normalement des institutions à l'intérieur de l'ONU, enfin, qui sont dépendantes, qui sont censées être indépendantes, mais qui sont en lien, évidemment, avec les Nations Unies, qui sont censées réaliser ces enquêtes. D'abord pour voir si les preuves sont suffisamment étayées pour réaliser ensuite une enquête plus précise sur le terrain. Or, il se trouve que beaucoup d'enquêtes, ou en tout cas de signalements, ne sont pas suivis d'approfondissement. Donc il y a impossibilité probablement de réaliser le travail qui devrait être réalisé par rapport à un signalement d'un abus. Et par ailleurs, parfois, l'argumentation... et celles de victimes qu'on n'arrive plus à retrouver ou de preuves matérielles qui ne sont pas suffisamment étayées. Or, on a aussi des témoignages d'investigateurs qui ont réussi à aller contre leur hiérarchie et qui, malgré un discours très pessimiste, on ne retrouvera pas la victime, ont réussi à la localiser, à obtenir des informations complémentaires. Donc, il y a une question de moyens techniques, très certainement, et aussi, dans certains cas, de volonté politique de couvrir ou pas certains agissements.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des scandales sexuels qui touchent les ONG et bien antérieurement les Nations Unies. Fabrice nous appelle de Kinshasa en RDC. Bonjour Fabrice.
Oui, salut. Bonjour à vous aussi.
Soyez le bienvenu. Vous nous appelez parce que vous travaillez dans une association, c'est bien cela? Une ONG congolaise?
Oui, je travaille dans une ONG... International ITC, donc International Training Center Job Access for All. Je suis comme coordonnateur pays au cours de ce mandat ici.
Oui.
Moi, mon témoignage est que j'ai été vraiment victime pour cette agression sexuelle à propos de ma petite soeur propre au niveau du Tanganyika, parce que il y avait l'un de nos seniors programmes sur l'une de nos activités, l'une de nos programmes Orientation People. C'était un Britannique, notre senior programme. Et il a engrossé ma petite sœur, et nous sans toutefois le savoir. Et quand il a vu que non, la fille était d'abord...
Attendez, donc vous nous dites que votre petite sœur a été violée, c'est bien cela? Elle travaillait dans la même organisation que vous?
Non, elle était encore élève, elle prenait donc
lycéenne.
Le bac.
D'accord.
Oui, lycéenne, oui, elle prenait le bac.
Et par qui aurait été violée votre petite sœur?
Par mon collègue britannique.
D'accord. Par un collègue britannique travaillant dans la même ONG que vous, hein?
Oui, dans la même ONG que moi.
Que s'est-il passé ensuite?
Et ensuite, dès qu'il savait que non, la petite sœur était déjà grosse, et il a demandé qu'il soit expatrié.
Elle est tombée enceinte, oui. Et à la nouvelle, donc il a été, il a changé de poste. Il a quitté le pays, donc la RDC.
Oui, il a quitté le pays. Il est parti vers l'Ouganda. L'Ouganda, et puis il a demandé. Pour le moment, il est en Australie.
Il est en Australie. Est-ce que vous avez saisi la justice pour votre petite sœur, Fabrice?
Bien sûr. Je me suis battu sur ça. Et comme vous voyez l'État congolais, on a pu banaliser le dossier. Le dossier est parti jusqu'à présent. Et l'enfant est resté là, l'enfant est resté comme un enfant bâtard, comme il est là. Et vous voyez, c'est un métissé. Et le climat, tout ça, ça pose problème.
Donc la plainte a été classée sans suite, c'est ça?
Sans suite, pour le moment. Parce que
et du côté de votre organisation et de la direction de votre organisation?
Oui, du côté de l'organisation, on avait pu parler sur ça, mais on va analyser parce qu'on a notre conseiller juridique. Le conseiller juridique, comme il avait déjà eu l'argent, vous voyez, la corruption est à 90% ici au Congo. Donc, on a tout analysé sur ça.
Bon, merci beaucoup de nous avoir appelé, Fabrice. Votre témoignage est intéressant parce que, effectivement, est-ce que l'action des ONG est rendue plus compliquée en termes de transparence, d'enquête interne, quand il s'agit de pays où déjà il y a un problème de gouvernance, Ronnie Broman?
Ben oui, inévitablement. C'est ce que, à plusieurs reprises, on a pu évoquer au cours de cette discussion, à savoir que les ONG n'ont pas d'instruments de police et de justice, et quand celles-ci sont, la justice et la police dans le pays où on intervient sont défaillantes, eh bien les moyens manquent. Donc ce que l'on peut faire et que l'on doit faire, et qu'un certain nombre d'ONG font, il faut le rappeler, c'est mettre en place des structures à la fois de prévention et de recours. Prévention pour éviter que ce genre de malheur arrive, et de recours pour faire en sorte que lorsque ceci se produise, il soit suivi d'une mesure de sanction, de signalement à la justice éventuellement dans le pays d'origine de la personne, comme par exemple il s'agit là d'un Britannique, la justice britannique pourrait être saisie de ces abus, de ce crime. Donc il y a de la part des ONG une responsabilité spécifique qu'un certain nombre d'entre elles assument, que d'autres n'assument pas. C'est pour ça qu'il est difficile, il est impossible de généraliser. On ne peut pas avoir un discours unique.
C'est ça. On a donc les instruments juridiques pour en fait s'adresser à la justice de l'accusé.
Parfois, mais n'oublions pas que les expatriés ne sont pas que des Blancs. Les expatriés ne sont pas que des Européens, par exemple. Enfin, pour parler de l'organisation que je connais le mieux, à savoir Médecins Sans Frontières, la moitié, je dis bien la moitié des expatriés sont des anciens personnels locaux qui ont acquis un statut d'expatrié. C'est un Ivoirien qui travaille en Afghanistan, un Thaïlandais qui travaille au Zimbabwe, etc. Donc il y a un très grand mélange, un très grand brassage. Donc n'identifions pas le terme d'expatrié au colon blanc, si j'ose dire. C'est heureusement aujourd'hui une situation qui est dépassée et qui est beaucoup plus large que cela.
Oui, quelle que soit effectivement la façon dont on est employé, qu'on soit en droit local ou en droit expatrié, ça ne change pas réellement la problématique.
Non, mais par exemple, dans le cas
de ce Britannique...
De toute façon,
si on est employé en droit local, on est en général relativement bien payé dans ces organisations.
Oui, de toute façon, oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que cette personne, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, il s'agissait d'un Britannique qui aurait pu éventuellement être jugé par un tribunal britannique. Bon, il s'est évadé et ça n'a pas été fait.
Et souvent aussi, on constate que les personnes impliquées, en tout cas qui sont accusées, peuvent être déplacées de mission en mission. Et ça se retrouve pour les casques bleus ou pour les fonctionnaires de l'ONU. Donc parfois, on déplace le problème sans réellement y mettre un terme.
Ça a été le cas pour le directeur Haïti d'Oxfam. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Ousmane nous appelle. Bonjour Ousmane, vous nous appelez de France. Vous êtes originaire du Mali, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien cela, oui.
Vous avez une question à poser à nos invités, je crois.
Voilà. La question que moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est possible d'envoyer des expatriés comme ça, des célibataires, dans les missions qui restent un an, six mois, ils n'ont pas leur famille, ils n'ont pas leur femme à côté. Donc, c'est qui se pousse ces gens-là à faire des dates comme ça? Donc, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que leur recrutement... il se focalise sur ce genre de sujets, sur ce genre de questions pour éviter ce genre de problèmes.
Vous posez une bonne question, Ousmane. Merci de nous avoir appelé parce que effectivement, comment ça pose aussi la question pour ces personnes expatriées. Je prononce ce mot au sens très large du terme, c'est-à-dire on est loin de son pays, hein, mais on peut venir du même continent. Mais comment pour ces personnes avoir une vie sexuelle, sentimentale quand on est en poste plusieurs mois sans avoir un comportement illégal et immoral.
Écoutez, moi j'ai travaillé en tant que célibataire pendant plusieurs années sur le terrain, sur différents terrains, et je vous jure que je n'ai jamais violé personne. On peut avoir des relations sociales, des relations sexuelles, des relations amoureuses, décentes, avec des gens partout dans le monde, sans pour autant recourir à la violence. Donc il faut rappeler cela, que ce soit avec, disons, des personnes locales.
Vous ne craignez pas
à
l'avenir que cela va compliquer la vie quotidienne des personnes, que certaines relations pourront être entachées d'un soupçon, voire de chantage, enfin...
Si, inévitablement, parce que l'intolérance croissante aux abus sexuels produit des excès également. Mais c'est tout de même un mouvement qu'il faut soutenir, un mouvement salutaire, c'est un mouvement protecteur pour les femmes, pour des personnes en situation vulnérable. Je rappelle aussi qu'il y a des viols d'hommes, hein, qu'il y a à peu près 15% des viols qui sont des viols d'hommes. Donc pour cette petite minorité de victimes, ça compte également.
Aujourd'hui, le personnel dans l'humanitaire, alors pour les Nations Unies c'est un peu différent, mais dans les ONG aujourd'hui, est-ce que c'est un personnel qui est en voie de féminisation?
Oui, bien sûr, comme toutes les professions, c'est un mouvement profond.
Non, pas comme toutes les professions. Dans l'informatique, ça ne se féminise pas.
Si, bien sûr.
Très doucement quand même.
Non, mais doucement. Mais
d'ailleurs, ça serait probablement une des solutions. Favoriser la féminisation, je pense, des humanitaires ou même des casques bleus.
Mais c'est déjà très largement en cours.
Bah, en tout cas,
à MSF, il y a plus de femmes que d'hommes.
Et pour plan international, Yvan Savy?
Oui, tout à fait. Je voudrais effectivement souligner que nos organisations se féminisent. Nous, pour être un acteur qui travaille à la fois sur des enjeux de développement et aussi sur des enjeux de crise humanitaire, je vois bien de l'intérieur de notre organisation qu'en termes de culture, les personnels qui travaillent sur les crises humanitaires et les personnels qui travaillent sur le développement, il y a différentes cultures. Et faire cohabiter ces cultures, c'est important. Et je pense que la culture du développement, c'est féminiser plus tôt, parce que les contraintes liées à des missions de développement ne sont pas aussi fortes que celles des missions humanitaires, donc plus de femmes dans le développement que dans l'humanitaire. Ça se féminise dans l'humanitaire. Il faut savoir que, bon, Rony, je disais, 15% de victimes sont des hommes. Dans ces cas-là, ce sont des jeunes, ça peut être des adolescents, ce sont des enfants. Donc on se retrouve toujours dans ces mêmes rapports de pouvoir. Hein, comment quelqu'un qui a du pouvoir peut imposer à quelqu'un qui n'en a pas des choses inacceptables.
Une relation sexuelle, même tarifée, mais qui reste une relation imposée.
Voilà, donc il faut faire évoluer les cultures des organisations, en particulier les organisations humanitaires qui fonctionnent sur des projections de personnel dans des contextes de bulles ou très fermés. Et il faut qu'au plus haut de ces organisations, il y ait une prise de conscience qu'il faut faire changer les cultures, il faut ouvrir la parole, il faut donner les moyens de signalement. Nous avons des moyens de signalement internes qui sont en place depuis longtemps. Un dernier sondage que nous avons fait auprès de l'ensemble de nos personnels, donc c'est 10 000 personnes dans le monde, 86% de nos personnels internes connaissent les mécanismes de signalement, mécanismes de signalement sur des déviances en lien avec les comportements sexuels, mais aussi sur les déviances par rapport à la fraude ou par rapport à la corruption.
Ça veut dire que les employés de plan ont obligation professionnelle de signaler?
Bien sûr, ils l'ont obligation dans le sens où ils signent une charte en tant que salarié qui va au-delà du droit national dans les pays où nous travaillons et qui les oblige à commencer par le leadership, hein, par les gens en haut de l'organisation qui doivent être exemplaires, qui les oblige à signaler les comportements qui sont pas acceptables. Ensuite, il y a des enquêtes internes qui sont déclenchées. Toutes les enquêtes ne mènent pas à un constat sur des accusations fondées. Hein. Il faut savoir que c'est toujours comme cela que ça se passe. Mais il faut signaler tôt, il faut enquêter vite. Et il faut prendre des actions rapidement sur tout cas. Et ouvrir la parole est une bonne chose pour l'ensemble de notre secteur.
Et je pense aussi qu'il faut fournir une protection aux lanceurs d'alerte, mais une protection qui soit réellement efficace. Signaler, dénoncer des abus,
exactement. Dénoncer un collègue, c'est quand même pas simple.
Hein. Exactement. Je pense que ça peut...
Pour sa carrière.
Exactement.
Si c'est un supérieur hiérarchique, par exemple.
Oui. Effectivement, les lignes de signalement sont ouvertes et sont des lignes anonymes. Vous avez plusieurs niveaux. Vous pouvez, selon la gravité ou selon le contexte, parce que chaque affaire est unique, hein, si vous voulez, vous pouvez signaler à un collègue, à un supérieur hiérarchique, ou faire appel à une ligne anonymisée qui permet de signaler quelque chose sans avoir à révéler votre identité. Et ensuite, on met en route des mécanismes d'enquête interne.
Ligne anonyme qui est gérée par l'ONG Plan, hein, on est bien d'accord.
Oui, tout à fait. Qui remonte
est-ce que tout ça ne risque pas d'alourdir les frais de gestion? Parce que ce n'est pas votre métier, à vous, à MSF, pour vous, Rony Broman, de prévenir ces problèmes-là. Ça risque pas d'être
bien sûr,
plus
ça
lourd, plus coûteux.
Mais enfin, tout de même... à la marge, hein. Il y a beaucoup bien d'autres choses qui alourdissent. Il y a le travail de secrétariat, d'administration, de gestion financière.
Les précautions dans le recrutement, les enquêtes en amont?
Non, non. Enfin, enquête en amont, je n'imagine pas qu'on puisse faire ça. Il y a tout de même un droit à la vie privée, il y a des protections de liberté. Enfin, on n'est pas obligé de se mettre à nu quand on vient postuler pour partir sur le terrain. Donc il faut, encore une fois, être sérieux sur le plan de la prévention, être sérieux sur le plan de la réaction, et voir des sanctions lorsque des choses malheureuses comme ça se produisent. Mais de là à vouloir exiger une transparence absolue, on peut pas devenir des organisations totalitaires dans le but de prévenir des crimes. D'ailleurs, vous savez, les dictatures et les totalitarismes se réclament toujours de la protection des victimes pour justifier de leur emprise sur les vies individuelles. Donc il faut aussi se garder de cet excès-là. Donc cet équilibre, il n'est pas facile à trouver.
Un tel scandale pourrait plonger les ONG dans cet excès-là à terme ou pas, vous pensez ?
C'est une invitation à cet excès-là, mais enfin, je pense, il y a aussi des freins internes, donc ce sont des équilibres difficiles à trouver.
Il y a un besoin d'exemplarité pour les ONG qui peut-être est en lien avec une transparence absolue, peut-être plus que dans d'autres secteurs. Il faut aussi l'entendre, ça. La mission qui est celle des humanitaires sur place crée encore une fois une indignation qui est peut-être encore supérieure à ce qui pourrait se passer dans d'autres secteurs.
Sans doute. Non, vous avez raison. Je suis bien d'accord avec vous. Et on a besoin de gens qui se conduisent de façon correcte, décente, qui ne jouent pas les brutes, alors même qu'ils sont au contraire.
Et donc pression accrue dans les mois à venir pour les ONG.
Oui, c'est ça. Mais encore une fois, il faut aussi garder aux gens leur intimité, leur liberté d'action.
C'est cet
équilibre qui est difficile à trouver.
Merci à vous tous et merci aussi à l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac, Didier Cherouz. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, la rubrique des magazines, et bien sûr aussi nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et notre adresse mail pour vos commentaires, c'est 7milliards@rfi.fr. Dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI. Merci à vous tous de votre fidélité, les voisins et les voisines.